Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'épisode 11 du balado de la RDO.
Je m'appelle Avery et je suis une rédactrice associée à la Revue de droit d'Ottawa. Dans cet épisode, on présente une entrevue avec la professeure Christiane Landhier-Cieslak dans laquelle elle discute de son article « L'acte de juger à l'âge séculier, le cas d'April dans AC contre Manitoba » qui figure dans le volume 51, numéro 1 de la Revue de droit d'Ottawa. Christiane Landhier-Cieslak est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Elle est aussi membre du Barreau du Québec et du Comité national d'éthique sur le vieillissement. La professeure Landhier-Cieslak se distingue par un parcours intellectuel diversifié et original qui, depuis plus de 20 ans, lui a permis, seul ou avec d'autres collègues, de proposer des enseignements et des conférences dans des perspectives distinctives et de publier des ouvrages et de nombreux articles au Canada et en Europe. Ce parcours a aussi reçu le soutien continu d'organismes subventionnaires tant nationaux qu'internationaux. À la suite de sa formation initiale en France, à l'Université Paris II Panthéon-Assas, à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, à l'École nationale de la magistrature et au Canada, à l'Université de McGill et à l'Université Montréal, Christiane Landhier-Cieslak s'est spécialisée en droit civil en se concentrant tout particulièrement sur l'étude comparative de ses rapports avec les droits fondamentaux de la personne, comme le droit à la liberté de la conscience et de religion. Ses premiers travaux publiés sur ces questions ont été récompensés par trois prix d'importance. Au Québec par le prix Minerge en 2006 et le prix de la Fondation du Barreau en 2009. En France par le prix du Centre français de droit comparé en 2005. Par la suite, à partir des années 2010, des formations complémentaires et des recherches en philosophie morale, en philosophie du soin et en éthique narrative au Québec à l'Université Laval, en France au Fonds Paul Ricoeur et en Suisse à l'Université de Lausanne, l'ont amené à réfléchir sur les fondements éthiques des textes juridiques, mais aussi sur l'importance du discernement éthique nécessaire à leur mise en œuvre. Ce sont l'ensemble de ces travaux qui ont permis à la professeure Landhier-Cieslak de développer, dans ses enseignements et ses écrits, une nouvelle perspective théorique et pratique pour la discipline du droit, la justice narrative, au croisement de l'herméneutique juridique et philosophique, de la philosophie du soin et du jugement, ainsi que l'éthique narrative. En 2014, la recherche de la professeure Landhier-Cieslak sur la justice narrative a aussi fait partie des 5 projets lauréats du concours de subvention du Fonds de recherche Société et culture en appui aux projets novateurs. L'article publié dans la Revue d'Ottawa en 2020 est l'un des premiers articles de la professeure Landhier-Cieslak, reposant sur cette nouvelle approche qu'est la justice narrative. N'oubliez pas que la RDO est une revue libre d'accès et que vous pouvez trouver cet article sur notre site web. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à le consulter. Dans l'affaire AC contre Manitoba, directeur des services à la famille et à l'enfance, April, une jeune fille de 14 ans témoin de Jéhovah, place les juges de la Cour suprême du Canada face à un dilemme difficile à résoudre en refusant les transfusions sanguines salvatrices. L'article de la professeure Landhier-Cieslak vise à mettre en évidence deux prises de responsabilité judiciaire distinctes à l'égard d'April en se concentrant particulièrement sur les aspects narratifs et argumentifs de la décision. D'abord, celle de la juge Abella, majoritaire, qui, dans une perspective de multiculturalisme critique, décide de préserver le corps de la jeune fille. Ensuite, la perspective du juge Binney, minoritaire, qui, au nom d'un multiculturalisme radical, prône le respect total de l'autonomie d'April, même jusqu'à sa mort. Cet article se décompose en deux temps. Dans un premier temps, en mobilisant la méthode de l'analyse narrative, cet article s'efforce de mettre en évidence la configuration narrative singulière que la juge Abella et le juge Binney proposent de l'histoire d'April. Dans un deuxième temps, il s'intéresse à la manière dont cette mise en scène singulière soutient l'argumentation juridique que chacun des juges choisit de déployer face au cas d'April. La décision AC contre Manitoba est une décision fortement polarisée qui, de manière tout à fait pertinente, met en lumière nombre de nos problèmes contemporains. En sommes maintenant à l'entrevue avec Christiane Landhier-Sislac, effectuée par Emily Gerge, rédactrice associée de la volume 55.
Donc, bonjour Christiane, je suis très ravie de vous accueillir. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, Yvon, hein?
Ça va bien.
Donc, ravie d'être avec vous pour ce balado, ça me fait très plaisir.
Oui, permettez-moi de vous exprimer ma réelle satisfaction à l'égard de votre article, une appréciation partagée par le reste du comité du balado. C'était un texte très bien rédigé avec des idées judicieusement organisées.
Merci beaucoup, c'est très gentil, ça fait plaisir. On met beaucoup de temps à écrire nos articles, alors ça fait plaisir de voir que c'est lu et que ça peut intéresser, puis que les gens trouvent ça judicieux. Merci beaucoup.
Certainement. Donc, sans plus tarder, on va entrer directement dans notre discussion. On aimerait parler un peu des questions générales sur votre article. Donc, votre article se concentre beaucoup sur un cas particulier, le cas de AC contre Manitoba. Pouvez-vous fournir un bref résumé de cette affaire aux auditeurs et quelle était la question juridique centrale?
Alors oui, tout à fait, je peux résumer l'affaire. Alors, c'est une jeune fille qui a 14 ans et 10 mois, donc qui est une adolescente. Elle souffre de la maladie de Crohn et dans la situation, elle a été hospitalisée parce qu'elle a des saignements gastro-intestinaux en lien avec sa maladie. Alors, la particularité, c'est que c'est une jeune fille qui est témoin de Jéhovah et qui a de multiples reprises, tant à l'écrit qu'à l'oral, a réitéré que... Elle ne voulait pas de transfusion sanguine dans son plan de traitement. Lorsqu'elle est hospitalisée, quelques jours après, sa situation s'aggrave au point de devenir urgente. Et là, elle réitère son refus. Et là, puisqu'elle est en danger de mort et qu'elle est mineure, le directeur des services à l'enfant et la famille va l'appréhender en tant qu'enfant ayant besoin de protection. Et elle va le faire en vertu de la loi sur les services à l'enfant et à la famille du Manitoba. Et là, le tribunal va devoir interpréter deux articles, l'article 25.8 et 25.9 de cette loi, dans le cadre de cette procédure d'urgence, pour autoriser justement, à la demande des médecins, d'administrer des transfusions sanguines dans l'intérêt de la jeune adolescente. Alors, dans cette affaire, l'administration de la transfusion sanguine va être autorisée, la jeune fille va être transfusée, mais par la suite, elle va faire appel de la décision du juge parce qu'elle va dire qu'il y a violation de ses droits fondamentaux. Alors, toute la question qui va être posée, c'est de savoir justement si les articles 25.8 et 9 de la loi sur les services à l'enfant et à la famille sont constitutionnels. Et en fait, ce qui est un petit peu complexe à comprendre, c'est que dans ces articles-là, on dit que en fait, la Cour peut autoriser des soins médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Mais le 25.9 précise que, en fait, la Cour ne peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe 8 sans le consentement de l'enfant qui a au moins 16 ans, sauf justement si elle est convaincue qu'il est inapte, donc ne comprend pas les renseignements ou évalue les conséquences. Alors là, dans cette situation, le juge qui va prendre la première décision, lui, va faire une interprétation très stricte de la décision. Il va dire, ben, comme la jeune fille a moins de 14 ans, ben, moins de 16 ans dans cette situation-là, vu que la loi se réfère à 16 ans, eh bien, en fait, elle n'a pas à donner son avis. On n'a pas besoin d'apprécier sa maturité à prendre des décisions. On dirait au Québec son aptitude à consentir aux soins. Et on prend la décision dans son meilleur intérêt et c'est de sauver sa vie qui est dans son meilleur intérêt. Alors là, bien sûr, la jeune fille va s'opposer. Elle va dire que ce n'est pas normal que parce qu'elle a moins de 16 ans, elle ne peut pas établir sa maturité. Alors, elle va dire que ça porte atteinte à son droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte. Elle va dire bien sûr aussi que la décision ne respecte pas ses convictions religieuses et son droit à la liberté de religion et de conscience de l'article 2 de la Charte canadienne. Et elle va dire que la loi introduit une discrimination fondée sur l'âge en distinguant les mineurs de plus de 16 ans et de 16 ans qui peuvent finalement être reconnus comme matures et les moins de 16 ans qui ne peuvent pas être reconnus comme matures, donc comme je disais pour le Québec, plutôt aptes à consentir.
C'est un cas très intéressant qui permet de toucher à plusieurs enjeux juridiques. Pouvez-vous donc approfondir sur ce qui a motivé votre choix de titre et de discuter des implications de l'âge séculier?
Alors, en fait, moi, dans ce projet-là, donc si je reprends le titre, donc sur la question de juger à l'âge séculier le cas d'April Doraste contre Manitoba, donc pour moi, il y a un premier choix dans le fait de parler de l'acte de juger et de donner un nom à la justiciable. Alors, bien sûr, c'est un nom fictif. Alors, pourquoi ça s'inscrit, en fait, dans tous les travaux là que je fais sur la justice narrative et, en fait, qui amène à appréhender le processus de juger plutôt comme une expérience interprétative, donc herméneutique et puis éthique. Et là où, justement, le juge doit rendre une décision dans un face-à-face avec le justiciable. Donc, dans l'article, je parlais du visage de justiciable en faisant référence à Emmanuel Lévinas. Donc, en fait, ce qui était important pour moi de montrer, c'est que l'acte de juger, hein, c'est vraiment un acte où on essaye de mettre en sens une situation de conflit, où il faut trouver finalement un point d'équilibre par une dialectique fine, justement, entre l'interprétation de l'histoire du justiciable et l'interprétation des règles de droit. Et donc, pour moi, de ce volet-là, de cette compréhension de l'acte de juger, c'était donc important hein, de donner un nom à la justicia pour qu'on voit bien que c'était une vraie personne. Et l'objectif, c'était de redonner chair, justement, à l'opération juridique qu'est l'acte de juger. Ensuite, se référer à l'âge séculier, c'était pour moi me référer à l'ouvrage de Charles Taylor, donc l'âge séculier qui était paru aux éditions Boréal et au Seuil en 2011, parce que j'étais intéressée, on parlait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur les questions religieuses, on parlait beaucoup de la question du désenchantement du monde, mais Charles Taylor essayait de proposer une autre manière de comprendre les choses et ça me semblait vraiment intéressant justement pour comprendre le multiculturalisme libéral canadien et de ne pas seulement le voir dans une perspective religieuse, mais plus largement comme le droit pour la personne à s'autodéterminer. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il m'a vraiment permis de poser la problématique auquel étaient confrontés les juges. Hein. Donc, en fait, quand même, prendre une telle décision, si on y pense, c'est de laisser mourir une jeune fille alors qu'on sait qu'on a sans doute les moyens de lui sauver la vie. Alors tout ça, c'était vraiment pour poser sur cet âge séculier, hein, comme je dis un peu au début de l'article, qui a vraiment un versant positif. Hein. Donc on reconnaît vraiment pour toute personne humaine des libertés et droits fondamentaux qui vont lui permettre de choisir son mode de vie, d'agir selon ses convictions, de maîtriser son existence d'une foule de manières, donc comme dit Charles Taylor, dont nos ancêtres n'avaient aucune idée. Et donc sur ce versant, on ne juge pas, hein, on a l'obligation de respecter, de reconnaître comme légitimes les actes, les comportements, les représentations d'autrui, quand bien même elles se fondent pas sur des représentations et des valeurs qui sont les nôtres. Alors ça, c'est vraiment le premier volet qui me semblait intéressant. Alors, est-ce qu'on peut juger de la décision d'April dans cette situation en respectant son choix? Mais d'un autre côté, on voit bien assez vite que si on pousse trop loin aussi cette possibilité, il y a un versant négatif. C'est que finalement, si on doit reconnaître la multiplicité des représentations du monde, ben c'est difficile d'avoir une référence commune à partir de laquelle on va pouvoir juger les choix, les actes, les comportements de la personne. Hein. D'une certaine façon, la personne devient sa propre mesure. Et donc là, ça devient plus difficile. Et finalement, alors qu'on avait un versant positif de cet âge séculier, on a un versant qui est plus difficile. Hein, c'est celui de est-ce qu'il y a encore une possibilité morale, hein, peut-être dans ce cas-là juridique, de pouvoir juger de la situation d'April. Alors, tout ça aussi, ça me semblait intéressant parce que ça posait finalement la question de l'interprétation de l'article 1 de la Charte canadienne hein, qui dit qu'il y a des limites qui sont raisonnables et justifiables, dans le cadre d'une société libre et démocratique pour les droits fondamentaux. Et surtout, ça m'a amené à beaucoup réfléchir au terme de limite hein, qui est à la fois, ben, c'est sûr, le point au-delà duquel on n'a pas le droit d'aller. Mais j'aime beaucoup aussi, il y a un de mes collègues qui a mis cette idée en exergue, François Viala en France, que le mot limite, c'est aussi en latin la lisière, la bordure, mais aussi le passage. Donc, c'est pas seulement ce qui vient limiter, mais ce qui permet aussi un espace de passage. Alors, je trouvais intéressant dans cette question de l'âge séculier, de finalement, comment accueillir l'autre et puis jusqu'où l'accueillir? Y a-t-il une limite à cet accueil?
Oui, donc le cas de April, c'est un cas très polarisé, comme vous avez dit, avec le point de juger et la différence et le multiculturalisme qui est en jeu au Canada. Vous faites un parallèle dans votre texte entre le multiculturalisme critique que la juge Abella décrit et le multiculturalisme radical du juge Binny. Pouvez-vous expliquer les contrastes ainsi que les facteurs communs entre le multiculturalisme critique qui est développé de manière objective par la juge Abella et le multiculturalisme radical qui prône l'autonomie décisionnelle élaborée par le juge Binny?
Donc, en fait, ce qui était intéressant pour moi, justement, dans la perspective de la justice narrative, c'était de porter attention au récit juridique. Comme je dis souvent, mes étudiants, on a parfois l'habitude, quand on lit une décision de Cour suprême, de passer directement à l'analyse juridique et on ne prend pas toujours attention à la manière dont l'histoire des justiciables est mise en récit. Et ça me semblait important, donc, en mobilisant la méthode de l'analyse narrative, de le mettre en évidence. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et ce qui m'a amené après à justement à mettre en évidence ces deux multiculturalismes, c'est que finalement, la juge Abella, quand elle racontait l'histoire d'April, elle insistait beaucoup sur tout le volet médical. Et en fait, elle nous racontait plutôt un récit où la jeune fille était sauvée, hein, donc un récit de guérison. Et à partir de ce récit de guérison, ben, elle retenait une interprétation de l'intérêt de l'enfant, alors qui était très complexe. Hein. Elle admettait que les enfants de moins de 16 ans devaient être en mesure de pouvoir prouver leur maturité, donc leur aptitude à consentir aux soins. Mais d'une certaine façon, elle exprimait bien que même si cette maturité ou cette aptitude était reconnue, ce n'était pas possible finalement de la mettre en œuvre pour mettre en danger sa vie. Donc pour moi, il y avait vraiment dans l'idée d'essayer de nommer le multiculturalisme d'Abella, c'était de parler d'un multiculturalisme critique, dans le sens qu'à l'égard de cette jeune fille, donc, qui était une personne de condition vulnérable, on pourrait dire, ses convictions ne pouvaient pas être reconnues au point de la conduire jusqu'à la mort. Alors, il y aura quand même une petite remarque à faire, c'est que dans la décision, en fait, Abella, elle parle très peu des convictions religieuses d'April. Hein. Elle se concentre vraiment sur sa santé, sur son corps. Donc, c'est vraiment, je dirais, les convictions religieuses sont incidentes pour elle, mais c'est plutôt son corps et sa santé qui est en jeu. Et ça tranche beaucoup avec la position du juge Binny. Donc, lui, quand on lit le récit de l'histoire d'April, on voit plutôt un récit d'injustice, hein, où il montre comment, finalement, le pouvoir médical, le pouvoir judiciaire viennent briser l'autonomie d'April et de l'empêcher de faire des choix fondamentaux par rapport à son existence. Et lui, il est vraiment dans la première perspective du multiculturalisme, le versant positif, en disant l'obligation de respecter, de reconnaître comme légitimes les actes et les comportements d'autrui, quand bien même ils se fondent sur des représentations et des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Hein. Donc, il y a même des passages pour dire que même si ce n'est pas la position que beaucoup de gens dans la majorité de la population prendraient, cette position doit être respectée au nom des valeurs de la personne et de son droit à l'autodétermination. Alors, c'est ça pour moi ce qui fait la différence entre un multiculturalisme qui serait critique et multiculturalisme radical. Mais en fait, avec les années, bon, j'ai écrit cet article en 2020, puis je l'utilise beaucoup dans mes cours, notamment sur mon cours en éthique où je mobilise justement la narration. Il me semble intéressant aussi de le voir sous l'angle de Jack et Amy, donc dans l'expérience de Jack et Amy qui est rapporté par Carole Gilligan dans son ouvrage « Une voix différente, la morale a-t-elle un sexe ?» Donc, juste un peu pour rappeler, c'est la référence qu'elle fait à une expérience qu'on a fait aux États-Unis pour résoudre ce qu'on appelle le dilemme de Kohlberg, et où on avait un petit garçon et une petite fille, je pense qu'ils avaient à peu près 9-10 ans, et où on leur demandait qu'est-ce que doit faire un homme qui a besoin de médicaments pour sauver la vie de sa femme, mais qui n'a pas l'argent pour les acheter. Et ce qui était intéressant, c'est que ce qu'elle montrait, c'est que Jack, qui était le petit garçon, donc elle le voit dans une perspective genrée, avait plutôt une analyse sous l'angle en fait, de l'idée que les individus sont indépendants, isolés, et que finalement leurs rapports sont régis par des systèmes normatifs bien établis. et que donc il fallait hiérarchiser les valeurs, donc ce qui amenait le petit garçon à dire que finalement l'homme pouvait voler le médicament, même si c'était contre la loi, pour sauver la vie de la femme. Et ce qui est intéressant, c'est que Amy, en fait, elle, au contraire, elle voyait plutôt les êtres humains dans des contextes qui étaient plus relationnels et qu'il fallait justement essayer de les mettre en dialogue, en discours. Et justement, elle aurait essayé de discuter avec le pharmacien pour voir si justement il n'y aurait pas pu avoir une solution pour sauver la femme et était dans un échange. Alors là, bien sûr, à l'époque, on voyait Jack comme étant supérieur à Amy, mais le temps a passé. Maintenant, on sait très bien que c'est deux manières d'aborder les choses, hein, un raisonnement plus principiel ou un raisonnement qu'on pourrait dire plus délibératif en éthique dans le cas d'Amy. Et je trouvais intéressant, finalement, de voir que Abella était plus dans cette perspective, finalement, d'Amy, d'une contextualisation de la situation de l'enfant, d'amener le juge à regarder l'intérêt de l'enfant au cas par cas, alors qu'on voyait vraiment que Bini disait, bon, voilà, on est un pays qui reconnaît le droit à la liberté de religion, le droit à la liberté, et il doit être respecté dès que, notamment, un mineur est reconnu apte, donc l'assimiler à un adulte. Alors, c'est une distinction aussi qui me semble un peu intéressante hein, dans la manière d'arbitrer les principes et les valeurs dans les deux cas.
C'est une polarité certainement intéressante à analyser. En mettant les deux récits en évidence dans votre texte, vous avez noté qu'il est troublant de constater à quel point ces deux juges ont pu avoir une interprétation distincte de la situation d'April, ainsi que les principes et règles de droit qui lui ont été applicables, à la page 43. Il semble impossible de séparer la prise de décision juridique de la construction narrative. Est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose?
Non, justement, dans la perspective que j'adopte, c'est pas du tout une mauvaise chose. Puis, d'ailleurs, peut-être une première remarque. Dans mon cas, je parlerai peut-être pas de construction narrative, mais de configuration narrative pour reprendre la philosophie de Paul Ricoeur. Parce qu'en fait, ce qui me semblait important, c'est peut-être de voir l'acte de juger aussi comme un moment où on essaye de mettre en sens hein, une situation, mais aussi de mettre en action les règles de droit. Alors, un peu pour revenir, je l'explique dans l'article, mais Paul Ricoeur, en fait, dit que dans un récit, il y a une dimension chronologique, c'est les épisodes de l'histoire. Donc, quand on regarde Bini ou Abella, ils ont tous les deux la même histoire. Une jeune fille, témoin de Jéhovah, qui refuse des transfusions sanguines à l'hôpital et un juge qui lui impose des transfusions. Mais ce qui est intéressant, après, Paul Ricoeur nous dit qu'il y a une dimension configurationnelle. Donc, en fait, il dit où, finalement, raconter, c'est déjà juger de la situation, mais un jugement réflexif où on essaye de réfléchir sur les événements en vue de leur donner un sens. Donc, penser justement, on fait tous l'expérience, hein, quand quelqu'un témoigne, si on est plusieurs à avoir un accident de voiture, on va peut-être le mettre en récit, on va raconter les mêmes épisodes de l'histoire, mais la mise en récit va être différente parce que d'une certaine façon, chaque personne va essayer de porter ce jugement réflexif sur l'histoire. Et en fait, c'est derrière tout ça, hein, c'est l'idée que y a toute l'herméneutique philosophique qui est derrière ça, que l'activité interprétative, c'est vraiment une activité inhérente à l'être humain. Il y a un auteur qui est dans la lignée de Paul Ricoeur, Johann Michel, qui a écrit un ouvrage sur l'homo interprétans, hein, et qui insiste sur l'idée que cette activité interprétative, et donc qui passe notamment par la narration, c'est notre capacité à donner sens au monde, surtout quand la situation est confuse ou crée le trouble, comme c'est bien sûr le cas d'April. On peut imaginer si on était face, nous, à cette situation, comment ça serait difficile de prendre sens. Donc là, on voit vraiment dans cette décision les efforts du juge Abella et de la juge Bini pour mettre en sens l'histoire d'April hein, à partir de la preuve. Hein, justement, il y a un rapport d'experts médicaux, de psychiatres qui vont lire tous les deux différemment et des textes juridiques aussi qui sont interprétés. Alors, hein, c'est vraiment pour moi pas du tout une mauvaise chose hein, que les deux n'aient pas mis en sens la même façon. Hein. Puis même, je pense que d'une certaine façon, alors est-ce que c'est un enjeu de genre si on utilise la perspective de Gilligan ou quelque chose de plus profond hein, on a vraiment deux personnes qui abordent la situation sous des angles différents, avec d'ailleurs Bini plus sous l'angle religieux et Abella plus sous l'angle de la santé. Et on voit vraiment ce qui est propre. Alors, bien sûr, à l'herméneutique juridique, où on essaye de donner sens à des textes juridiques par des méthodes interprétatives, mais là, aussi en herméneutique philosophique, où on dit que une interprétation, ça s'ancre dans un être humain qui va devoir concrétiser un sens dans une situation humaine. Alors, c'est pour ça que pour moi, pas du tout... c'est sûr que c'est troublant de voir qu'ils ne voient pas du tout la situation de la même manière, mais d'une certaine façon, si on met cette perspective théorique par derrière pour éclairer leur position, on comprend que c'est leur manière singulière de voir le monde et de configurer une histoire et d'interpréter les textes juridiques.
Oui, il est clair que l'interprétation est une tâche très difficile à faire, mais malgré cette dualité narrative, l'état de droit continuera à évoluer. Depuis la décision d'April, en observant les tribunaux, que pensez-vous de la décision rendue dans l'affaire Alberta contre Hutterian Brethren of Wilson Colony, dans laquelle les juges Abella et Binney semblent revenir sur leurs positions respectives, comme celle dans l'affaire de April dans AC contre Manitoba?
Alors, j'ai regardé cette décision, mais en même temps, je ne sais pas si justement les positions sont si différentes que ça quand on les regarde bien. Alors, j'avoue que je connais beaucoup plus les décisions de la juge Abella parce que j'ai étudié beaucoup de ses décisions, peut-être un peu moins le juge Binney, mais pour moi, la décision... que vous indiquez, c'est vraiment j'y retrouve vraiment la manière d'Abella de réfléchir. Elle parle justement dans cette décision, donc dans cette décision, c'est de savoir si oui ou non les membres de la communauté utérite peuvent avoir le droit de ne pas d'avoir de photos sur leur permis de conduire. Et dans cette situation, je trouve qu'on retrouve ce qu'elle appelait le dilemme d'Antigone dans la décision NS. Donc, vous rappelez, la décision NS, c'est la décision où on se demande si une jeune femme qui porte le voile intégral peut porter ce voile intégral en cours pour témoigner d'une situation d'agression sexuelle. Et je la retrouve assez bien justement dans ce que je disais tout à l'heure, ce souci de revenir dans le cas concret des personnes, dans les interactions dans laquelle ils sont impliqués. Alors, je dirais que dans le cas d'April, elle était en train de regarder sur la question d'une vulnérabilité de condition, comme l'est un enfant, mais pourrait l'être une personne aînée ou une personne avec une situation de handicap. Mais je trouve que dans cette situation, elle revient beaucoup sur la question de la vulnérabilité de situation des membres de la communauté, notamment comme elle dit que si on ne leur permettait pas justement de ne pas avoir de photos sur leur permis de conduire, elle dit que ça serait dramatique, non seulement leur impossibilité de conduire les touche individuellement, mais elle compromet aussi sérieusement l'autonomie de leur communauté religieuse. Donc, elle voit comment, ils ne seraient plus en mesure d'exercer leur autonomie en raison de leur conviction. Mais pour moi, ce qui était vraiment important, c'est que... Alors, je n'ai pas fait le détail comme je l'ai fait pour AC contre Manitoba, mais on voit vraiment une analyse qui regarde l'impact concret de l'interdiction qui est posée. Alors, bien sûr, avec effet bénéfique préjudiciable, en montrant que les effets préjudiciables sont dans ce sens-là. Donc, pour moi, je retrouve son même rapport, à mon avis, qu'il y avait dans la décision AC contre Manitoba. Et pour le juge Binney, je trouvais ça un petit peu plus difficile parce que ce n'est pas lui qui a rédigé la décision. C'était la juge en chef, Beverly McLaughlin. Mais en même temps, on pourrait quand même dire qu'il y avait quand même une analyse qui était beaucoup plus principielle, comme il avait pu le faire dans AC contre Manitoba, en disant que justement, dans un État moderne, la plupart des règlements pourraient être contestés si on admettait ça, et il y aurait un effet plus que négligeable dans cette situation. Il dirait donner suite à chacune de ces revendications religieuses pourrait nuire gravement à l'universalité de nombreux programmes réglementaires. Donc, on considère que dans ce cas-là, les effets préjudiciables ne l'emportent pas, donc pour la communauté, sur les effets bénéfiques de l'universalisation de la photo obligatoire. Donc, on a un raisonnement qui est quand même plus déductif et plus systématique que le raisonnement de la juge Abella. Donc, pour moi, il y a quand même une finalité. Donc, peut-être que ce qui ferait la différence entre le multipluralisme critique et radical, c'est plutôt la méthode d'analyse qu'en soit une décision systématique à chaque fois.
Merci. Donc, pensons un peu dans l'évolution potentielle du test de l'intérêt supérieur et l'applicabilité de la doctrine du mineur mature dans divers domaines de la réglementation des soins de santé, tels que le cannabis médical, l'aide médicale à mourir et le consentement des traitements alternatifs. Comment pensez-vous que cela va s'évoluer?
Ben, c'est difficile à dire comment tout ça peut évoluer. Ce qu'on peut souhaiter, en fait, c'est qu'il y ait deux écueils qui soient évités. Donc, celui qui évolue vers une consécration systématique du droit à l'autonomie, à l'autodétermination du mineur dit mature, et puis inversement, une consécration systématique de la nécessité de le protéger. Donc moi, ce que j'aime bien, j'avoue, dans la position majoritaire de la décision AC contre Manitoba, hein, c'est finalement l'exercice du pouvoir du juge hein, pour apprécier, bien sûr, la maturité, l'aptitude de l'enfant à prendre ses décisions, hein, donc en reconnaissant une certaine autonomie. Mais d'un autre côté, le souci de le protéger pour ne pas le mettre en danger. Dans d'autres articles, j'avais insisté sur l'idée qu'il y avait une personnalisation par le droit au nom de la dignité de la personne et que cette dignité prenait trois axes. L'autonomie, donc la question de l'autodétermination qu'on voit bien dans la décision AC contre Manitoba, mais aussi la question de la dignité sauvegarde, donc protéger la personne comme pour des atteintes à son intégrité physique et psychologique, et puis la dignité intégration de ne pas être discriminée donc exclu de l'humanité parce qu'on a une caractéristique particulière, voire même de la société politique. Et donc, c'est ça, je trouve intéressant que cet intérêt de l'enfant, en fait, qui est proposé dans AC contre Manitoba, essaye d'intégrer ces trois volets de l'autonomie, de cette dignité, dignité autonomie, dignité intégration et dignité sauvegarde. Comment vous m'avez posé la question aussi sur... avec cette question du cannabis médical, de l'aide médicale à mourir, du consentement à des traitements alternatifs. J'ai beaucoup pensé aussi aux réformes qui se sont faites, notamment en droit québécois, sur la protection des personnes majeures, donc les nouveaux régimes de protection, où on voit émerger l'idée d'une autonomie relationnelle pour les personnes qui sont dans des vulnérabilités de condition, et un peu l'idée d'une autonomie assistée, donc qu'on soutient, mais qu'on essaye de rendre le plus efficace, enfin le plus de l'exprimer le plus possible, que la personne puisse être le plus autonome possible, mais en la soutenant, en l'aidant et en l'accompagnant. Alors je trouve intéressant dans la question de cannabis médical, traitement alternatif, hein, voir les accompagnements qu'on peut faire à l'égal de l'enfant, et puis peut-être dans l'aide médicale à mourir aussi, de voir les contextes qui sont véritablement des fins de vie. Hein, où la mort est imminente et peut-être les autres cas doivent être appréciés peut-être différemment des adultes. Alors, je ne sais pas si cette réponse vous donne un peu l'évolution potentielle, ou en tout cas au moins celle qu'on pourrait envisager à la suite d'AC contre Manitoba.
Oui, c'est certain que l'effet social de l'autonomie du mineur mature est un sujet très important. Les répercussions politiques et sociales de l'idéologie de multiculturalisme critique aujourd'hui est très intéressant de noter. Par exemple, il est intéressant de noter que les témoins de Jéhovah aient atteint un certain niveau d'acceptation en tant que confession religieuse légitime au Canada. La communauté en question reste controversée. Pensez-vous que le juge Binney aurait été de la même opinion si April avait été un membre d'un groupe religieux un peu moins légitime en général?
En fait, je pense qu'à travers tout ce que la lecture d'AC contre Manitoba, mais toutes les décisions plus larges sur la question de l'autodétermination de la personne, notamment en lien avec ses convictions religieuses ou représentations du monde, je pense que c'est moins une question en lien avec à quelle communauté qu'on appartient, mais jusqu'où on laisse le droit à l'autodétermination à la personne par rapport à son propre corps, selon ses convictions profondes et ses représentations du monde. Et je pense que le changement, il y a un changement du rapport à la mort important, notamment quand on a vu l'aide médicale à mourir qui a été reconnue. Donc pour moi, c'est difficile. Le juge Bini, je ne le connais pas personnellement dans ce cas-là, mais il me semble que dans ce qui est posé à travers le multiculturalisme, on l'associe toujours à des questions religieuses, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. C'est vraiment la question de reconnaître comme légitime les diverses expériences que chacun fait du monde. Et d'ailleurs, c'est ça qui amène aussi la reconnaissance de l'identité de genre, hein, de cette expérience intime singulière. Donc, à mon avis, ce que le juge Bini dégage, c'est une reconnaissance fondamentale de ce droit à l'autodétermination de la personne à partir de son expérience singulière. Donc, à mon avis, son enjeu n'aurait peut-être pas été par rapport au groupe religieux, mais par rapport peut-être à la reconnaissance de ce droit, quel que soit le contexte, mais ça sera encore à vérifier.
Dans votre article, vous soulignez qu'en common law, selon l'analyse de la juge Abella, la compétence parents-parenti inhérente aux tribunaux leur permettant de protéger les mineurs matures, notamment si nécessaire, en passant outre à leur volonté en matière de soins de santé. Pensez-vous que cette affaire, d'une manière quelconque, mine les droits et ou les responsabilités parentales? Est-ce que les juges peuvent réellement être la personne la plus apte à déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant de manière précise?
En fait, la première chose, c'est que je ne dirais pas que ça mine les droits ou les responsabilités parentales, parce que d'une certaine façon, dans cette question, on ne s'est pas vraiment tourné vers les parents. On s'est tourné directement vers l'équivalent de la direction de la protection de la jeunesse au Québec qui est intervenue. Donc, c'était plus de savoir si on laissait la jeune fille qui avait une certaine maturité de prendre sa décision. C'est toujours un peu embêtant ce genre de question. Est-ce que vraiment on doit décider qu'est-ce que ça serait des droits ou des responsabilités parentales sans limite? Ça fait quand même longtemps qu'on reconnaît que les parents ont un exercice, donc au Québec, comme on dit, l'autorité parentale qui est encadrée dans l'intérêt de l'enfant. Donc pour moi, je ne poserai peut-être pas la question de cette façon, mais plutôt de chercher dans cette décision, c'était d'essayer de trouver une position nuancée où on allait respecter l'autonomie de la famille, l'autonomie de l'enfant, mais reconnaître aussi sa vulnérabilité et son besoin de protection. On revient justement un petit peu à la question des limites, dans quelle mesure on peut déterminer des bordures, des lisières, mais comme on disait tout à l'heure, un passage. Il me semble que c'est important le rôle des juges pour personnaliser les décisions dans l'intérêt de l'enfant et de rechercher cet équilibre. Ça me semble pertinent. Ce qu'on pourrait peut-être quand même souhaiter autour de ces questions-là, c'est peut-être en amont qui est davantage un travail, moi je trouve, interdisciplinaire justement pour travailler avec ces jeunes qui ont une maturité et puis de les mettre en dialogue avec des équipes de soins, avec des gens multiples pour justement réussir à concilier. Donc là, peut-être que je me mets dans la perspective d'Emmy, comme disait Gilligan, où on est plutôt dans une démarche de délibération pour essayer justement de respecter la dignité autonomie, la dignité intégration et la dignité sauvegarde de l'enfant. Donc, je ne verrais pas du tout comme une mauvaise chose l'intervention de l'État dans ce contexte-là. Mais encore une fois, ça revient sur la manière d'intervenir qui me semble importante de poser.
Nous apprécions vraiment vos réflexions sur cette matière. La capacité d'un mineur mature à consentir à des soins de santé est récemment aussi revenue sur la scène politique dans le contexte des débats publics sur les soins de santé liés à l'affirmation du genre et les limites des droits parentaux. Il s'avère donc inévitable que la Cour suprême soit bientôt appelée à se prononcer de nouveau sur cette question. Donc, avec le départ à la retraite des juges Abella et Bini, pensez-vous que la configuration actuelle de la Cour suprême pourrait encore entraîner des récits divergents dans une décision future sur ce sujet, ou bien la Cour a-t-elle évolué vers une conception plus cohérente du multiculturalisme canadien?
Alors là, c'est vraiment une question difficile que vous me posez. Hein. Je ne sais pas si le départ à la retraite des juges Abella et Bini vont beaucoup changer les choses, hein, parce que comme on disait, c'est vraiment le questionnement des limites à l'autodétermination de la personne, surtout quand elle est, comme on disait, dans une condition de vulnérabilité particulière, comme ici, en raison de son âge. Pour moi, ces conceptions différentes, je ne crois pas qu'on puisse vraiment souhaiter des conceptions, une conception unique de ce multiculturalisme canadien, parce que de toute façon, c'est important de voir les différents angles, les différentes perspectives. Donc, d'une certaine façon, Bini le verrait plus sous l'angle des principes et Abella, on pourrait dire qu'elle le voit plus sous l'angle du contexte et de la relation. Donc, comme je vous dis, c'est difficile à savoir comment les choses vont évoluer. Mais c'est sûr que dans chaque cas, et on le voit, c'est comment on trouve l'équilibre, une solution, finalement, une décision. Paul Ricoeur parle beaucoup de sagesse pratique, comment on trouve la solution juste dans un cas singulier, dans une histoire singulière, et justement où on trouve l'équilibre entre l'autonomie de la personne, le fait qu'on l'intègre au sein de la société et qu'on la préserve dans son intégrité physique et psychologique. Donc, c'est difficile à répondre à cette question. En y réfléchissant à cette question, ce que je vois quand même peut-être qui va apporter de nouveau, c'est l'angle du droit à l'autodétermination, cette fois-ci qui n'est pas seulement individuel, mais collectif. Comment on va articuler le droit à l'autodétermination individuelle et puis, par exemple, la reconnaissance du droit à l'autodétermination pour certaines sociétés distinctives ou nations distinctives, comme par exemple les communautés autochtones. Donc, on pouvait penser, cette question est quand même bien posée dans le renvoi, dans la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis du 9 février 2024, où on reconnaît régime de protection propre aux Premières Nations pour assurer la protection à l'enfance. Mais ça va être intéressant de voir comment on va voir la place de l'individu qui pourrait être singulier dans la communauté ou le rapport avec ce que certains peuvent appeler les valeurs fondamentales canadiennes. Et puis, dans l'évolution du multiculturalisme, bien sûr, va se poser la question de la loi 21 là, sur la laïcité de l'État avec le caractère distinctif de la société québécoise, là où, bien sûr, ça va poser en tension le droit à l'autodétermination religieuse des individus versus avec la protection des valeurs fondamentales québécoises et la question de la laïcité. Ce que je peux juste dire, c'est que prochainement, on va publier un livre avec une de mes collègues, Mathilde Philippe-Gay, où justement, on essaye de réfléchir sur la laïcité et le multiculturalisme, mais pas sous l'angle de leurs différences, mais de leurs points communs. Et en fait, assez rapidement, quand on travaille sur ces questions, on voit qu'on finit toujours par arriver au même problème, qu'on commence la situation avec l'idée qu'il faut transcender les différences à une autre situation où il faut les reconnaître toutes dans la vie concrète, dans les cas concrets. Finalement, les solutions finissent par se ressembler beaucoup plus parce qu'il faut toujours être dans la nuance pour assurer une société pluraliste et paisible. Alors, c'est peut-être ça la voie qui va être de trouver une certaine sagesse dans l'application de ce multiculturalisme ou de cette laïcité, si elle est reconnue dans le cadre de la loi 21.
Merci beaucoup pour avoir partagé vos observations avec nous. En tant que réflexion finale, connaissez-vous d'autres affaires récentes de la Cour suprême du Canada ayant soulevé des problématiques similaires concernant le rôle des juges dans une société séculaire?
J'ai trouvé la question difficile parce que est-ce que pareil, on pouvait reposer la question de ce dilemme. J'ai eu l'impression qu'il y avait finalement beaucoup de décisions qui posaient ce dilemme. Dans la décision Carter, même si elle était unanime sur la question de la fin de vie, on peut imaginer que dans les juges, il y a dû certainement des décisions de cette difficulté peut-être à savoir jusqu'où on pouvait reconnaître une certaine possibilité pour les personnes demander une aide pour mourir dans des situations où elles n'étaient pas en fin de vie. Dans le cas Carter, c'était plus une maladie dégénérative. Il y avait aussi la question de la décision NS dont je vous ai parlé tout à l'heure, les plus anciennes quand même, une dizaine d'années en 2012, où on avait justement cette dame avec un voile intégral. Est-ce qu'il fallait la laisser témoigner avec ce voile intégral ou pas? Et certains juges, pardon, comme le juge Lebel, disaient que non, au nom de valeurs fondamentales canadiennes, comme le caractère contradictoire du procès. En fait, il me semblait que c'était certainement une des difficultés fondamentales dans lesquelles on était. Hein, comment poser des limites à l'exercice d'un droit à l'autodétermination par rapport à son corps, par rapport à l'identité, et reconnaître jusqu'où on reconnaît l'expérience fondatrice des personnes qui constituent leur identité ou leur rapport au monde. Il me semblait que c'était finalement une question de fond de beaucoup de décisions.
Et avant de conclure, j'aimerais vous demander si vous avez d'autres questions de réflexion finale à partager avec les auditeurs aujourd'hui.
Ben peut-être en réflexion finale, c'est sûr que la réflexion, la mienne, commence par une réflexion sur les questions religieuses, mais au fond, aborder les questions religieuses, petit à petit, c'est beaucoup plus fondamental. Hein, ça touche la conscience de la personne, comment elle construit son rapport au monde, comment elle construit sa représentation du monde et organise son action et son agir. Donc là, on est beaucoup plus dans le champ de l'éthique hein, aussi, comment la personne agit et avec quelle visée. Et en fait, ce qui était important pour moi, je pense à travers cet article, c'était de mettre en évidence le rôle important des juges, mais peut-être au fond, quand on y réfléchit plus largement, même ça pourrait être aussi le pouvoir législatif ou de la société dans son ensemble, hein, d'une activité interprétative et d'un effort de mise en sens hein, de nos grandes valeurs et puis d'assumer, d'accepter que les lectures peuvent être complexes, peuvent être multiples. Et vraiment, pour moi, comme je disais, cet article, hein, c'est vraiment un de mes premiers sur cette démarche de la justice narrative, hein, où j'essaie vraiment de faire cet effort de ne pas voir le droit comme une activité seulement rationnelle, hein, déductive, logique, hein, ou avec une rationalité des méthodes interprétatives appliquées de manière assez systématique, mais vraiment une expérience qui est complexe. Hein, où on est impliqué, où on cherche à mettre en sens, où on a des visées éthiques, hein, bien sûr aussi une visée de justice, hein, parce qu'on veut mettre un terme à un litige dans une perspective courte, comme le dit Ricoeur, mais aussi assurer la paix sociale hein, dans une perspective longue. Et peut-être voir Abela et Bini, et c'est peut-être comme ça que moi je les reprends plus dans mon cours, comme deux démarches possibles pour appréhender une situation factuelle, hein, je dirais sous l'angle de la relation avec Abela. Justement, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se tisse autour de la personne, quels sont les rapports qui se tissent autour d'elle. Et puis, oui, bien sûr, cette autodétermination, cette autonomie, mais elle ne peut pas être pensée en dehors de la relation à l'autre. Et puis aussi, cette démarche de Bini qui, je dirais... peut-être est plus classique, qui essaye de poser des principes et de les appliquer à la situation, mais avec aussi certaines conséquences dans cette application assez logique. En fait, il y a une certaine logique et une certaine démarche déductive. Mais je trouve que c'est intéressant de mettre en évidence ces modes d'analyse et surtout dans April, qu'est-ce qu'on voyait d'elle, hein, justement est-ce qu'on voyait la jeune fille à sauver ou la jeune femme avec des convictions qui était prête à je pensais un peu à la figure d'Antigone là, qui était prête à mener ce combat jusqu'à la mort. C'est vraiment intéressant comment on voit l'autre et puis je pense que pour nous tous ça nous amène à voir que tout ça est extrêmement complexe et que il y a lieu de discuter beaucoup et de moins être dans le conflit comme on l'est actuellement.
Voilà toutes les questions que le comité de la RDO pour le balado avait pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir pris le temps de me rencontrer et de discuter de votre article avec nous. Nous sommes toutes et tous très reconnaissants à la RDO.
Ben, merci beaucoup à vous. J'espère que nos échanges permettront de poursuivre la réflexion sur ces sujets qui sont quand même vraiment passionnants. Puis merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci.
Ceci conclut cet épisode du balado de la RDO. Je tiens à remercier notre invité, professeur Christian Lanhier-Sislak, de s'être joint à nous aujourd'hui. Je remercie également le comité du balado de la RDO pour avoir préparé les questions pour cet épisode et pour l'avoir révisé et transcrit en anglais et en français. Et pour terminer, je vous remercie de votre écoute.